Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour votre santé, votre avenir sur VOA Afrique, The Voice of America depuis Washington DC. Je suis Nani Tetalani. Les cas d'infection et des décès liés au COVID-19 en Afrique demeurent inférieurs à ceux des autres continents. Plusieurs pays africains ont mis au point des stratégies qui se sont révélées efficaces pour endiguer la propagation de la pandémie malgré leur système de santé publique réputé fragile. Parmi ces pays figure le Burkina Faso. Comment les autorités burkinabées organisent-elles le combat contre le COVID-19? Pourquoi l'Afrique reste-t-elle assez épargnée par le nouveau coronavirus, contrairement à l'Occident qui connaît même une deuxième vague de la pandémie? Quels sont les moyens de prévention à observer? Quelle est la dangerosité de cette maladie?
Il y a des pathologies plus dangereuses que le monde a connues, que l'Afrique a connues. Elle n'est pas aussi dangereuse que Ebola. Ce qu'il faut retenir, c'est que sa dangerosité dépend d'un certain nombre de facteurs. Okay. D'abord, parlons un peu de la contagiosité. Okay. Elle apparaît par sa voie de contamination très dangereuse au contact des gens. Donc, étant donné que c'est par voie aérienne et les personnes sont en mouvement, sa dangerosité, sa contagiosité devient majeure.
Pour trouver des réponses à ces questions, nous recevons le docteur Camille Nimenou, spécialiste de santé publique et médecin engagé dans l'appui international dans la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
C'est le moment d'écouter notre discussion avec le docteur Camille Gounimenu.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Bonjour docteur.
Oui, bonjour. Oui.
Merci d'avoir accepté d'être notre invité pour votre santé, votre avenir sur la voie de l'Amérique. Puisque vous travaillez sur la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso, on aimerait savoir quelle est la situation du COVID-19 dans ce pays, le nombre de cas et le nombre de décès à ce jour.
Oui, je vous remercie. Effectivement, j'interviens actuellement au Burkina Faso dans l'appui international qui est apporté à ce pays-là, dans la lutte contre COVID. Et depuis le 9 mars 2020, où ce pays a enregistré son premier cas, chaque jour, de nouveaux cas sont enregistrés, mais le pays n'a pas connu la vague épidémique qui avait été annoncée. À ce jour, disons à la date du 20 octobre, le pays a enregistré 2406 cas confirmés de COVID-19, 1824 guérisons et 65 décès. Voilà les informations précises que je peux vous apporter par rapport à votre question.
Ces chiffres sont quand même très en bas par rapport à ce qu'on observe dans les pays d'Europe. Et c'est pourquoi notre auditeur, Alphonse Mbouaki, veut savoir ce qui fait que l'Afrique soit épargnée par la contamination massive, contrairement à l'Europe qui est en train de connaître même une deuxième vague de la pandémie.
Et effectivement, la vitesse de progression du COVID-19 en Afrique n'est pas le même dans les autres régions du monde, précisément en Europe et aux États-Unis qui connaissent actuellement la deuxième vague. Et pour expliquer cette situation, il y a de possibles raisons que les recherches dans le futur vont confirmer, mais elles sont majeures, elles ne sont pas négligeables. La première chose, c'est, à mon humble avis, il y a déjà une habitude de surveillance et de riposte organisée par les pays africains par rapport aux multitudes d'épidémies qu'ils ont l'habitude d'avoir. Si bien que même sur le plan régional, il y a des institutions comme l'OAS, l'OMS régional, le CDC, qui les appuient déjà dans les luttes contre les multiples épidémies qu'ils ont connues. Je veux citer par exemple les épidémies de rougeole, les épidémies d'Ebola, les épidémies de Lassa et même les épidémies de dengue. Maintenant, en dehors de ça, dès que les premières informations sont sorties, et en février, disons en mars déjà, les pays africains ont pris des mesures très très restrictives en fermant leurs frontières, le mouvement de leur population.
Mais docteur, les pays européens aussi ont fait la même.
Oui, oui, mais c'est bon. Il y a une certaine... Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire, mais au-delà de cette information de fermeture des frontières et de réduction et limitation des mouvements, il faut ajouter quand même quelques informations particulières. C'est que cette immunité qui a pu être générée au milieu de ces pays africains, au niveau de ces pays africains, qui ont pu réagir positivement par rapport à cette pandémie. Ça, c'est une hypothèse non négligeable parce que dans le corps humain, il y a ce que nous appelons les immunités à titre de mémoire. Et face aux multitudes d'épidémies qu'ils ont connues, et par une certaine immunité croisée, et c'est possible que les Africains aient développé une certaine résistance. L'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est surtout la jeunesse de la population. Parce que nous avons remarqué que les plus grands tributaires de la pandémie, ce sont surtout les personnes âgées, et leur nombre étant très élevé dans les pays occidentaux, en Afrique, ils en sont seulement à 3% de la population, et ce qui a pu être en faveur de l'Afrique. Un autre aspect non négligeable aussi, c'est l'environnement. Le virus en question ne supporte pas l'air libre ni la chaleur, et ceci a pu être un facteur en faveur des Africains. Voilà quelques éléments qui restent encore à étudier, à confirmer, mais qui peuvent avoir été en faveur des pays africains.
Alors, la plupart de nos auditeurs reviennent sur une question qui les préoccupe beaucoup. Il s'agit des premiers signes d'une infection au COVID-19.
Effectivement, il n'y a pas de signes spécifiques et typologiques de COVID-19. Les premiers signes, cela apparaît comme une fièvre, hein, évocateur du paludisme, et beaucoup sont tentés même de le confondre au paludisme. Après la fièvre, il y a la fatigue, les douleurs articulaires, la perte de l'appétit, et tout ça, comme je le dis, sont évocateurs du paludisme. Et puis, à la suite de ça, il y a quelques signes respiratoires qui deviennent un peu particuliers à la COVID-19 et qui se caractérisent surtout par la rhinorrhée sans obstruction nasale, ok. Il y a les éternuements, okay, la toux sèche, voilà un certain nombre de signes qui permettent d'y penser. Et souvent, quand on y prend garde, elle passe rapidement vers un état de détresse respiratoire et c'est là où l'attention de la plupart sont attirées. Mais il faut avouer que dès les premiers signes évocateurs même du paludisme, il ne faut pas hésiter à se faire examiner pour s'assurer qu'on n'est pas en train de développer les signes majeurs initiaux du COVID-19.
Et où est-ce que la personne doit aller se faire examiner? Est-ce qu'on peut aller au petit cabinet du quartier ou un grand hôpital?
Bon, chaque pays essaie de s'organiser. Il y a des numéros, chaque pays, il y a souvent des numéros d'alerte que la personne peut appeler gratuitement pour avoir des conseils auprès des autorités sanitaires locales. Et ces autorités sanitaires locales peuvent les orienter vers le centre de santé approprié ou selon les informations qu'il va fournir au téléphone, et cette autorité sanitaire locale peut lui donner des conseils, soit en lui recommandant de s'auto-confiner, soit en l'orientant selon les éléments de ce qu'il a enregistré, en le recommandant vers le centre de santé le plus proche. Voilà un peu les informations que je peux fournir à ce stade de notre communication, c'est que chaque pays a sa façon de s'organiser. Il n'est pas recommandé de se rendre dans un centre qui n'est pas déjà sur la liste et qui n'est pas préparé à vous accueillir. Sinon, il risque également de passer à côté et de vous traiter comme une pathologie banale pour n'avoir pas été bien préparé à vous accueillir.
Et comment se transmet ce virus?
Le coronavirus, effectivement, la transmission du coronavirus a été suffisamment documentée jusqu'à présent. Il est vrai qu'il y a encore des informations qui se révèlent à mesure que nous progressons, mais ce qui est certain, on a compris que c'est une transmission d'abord interhumaine par la voie respiratoire, soit à travers les gouttelettes inhalées dans un environnement où quelqu'un qui était infesté a déjà libéré des pustules, ou bien c'est de façon indirecte par des contacts La personne a dû toucher des surfaces qui ont été préalablement contaminées par ce virus. Et dans ces conditions, nous comprenons les dispositions qui sont recommandées. Mais nous savons que en dehors de cette transmission aérienne, qui est la principale que je viens de décrire, il y a d'autres formes de transmission qui n'ont pas été encore suffisamment documentées. C'est la transmission à travers les autres liquides biologiques de celui qui est malade, à savoir les urines, les selles, les sécrétions génitales, ou bien les sécrétions materno-fœtales. Je veux parler de l'allaitement maternel. Tout ça n'a pas été encore suffisamment documenté, mais la voie la plus sûre et la plus connue jusqu'à présent et qui est la mieux documentée, c'est la voie aérienne de transmission. D'où l'intérêt vraiment du port des masques. Voilà ce que je peux vous en dire.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Quelle est la dangerosité de cette maladie qu'on appelle Corona?
Bon, par rapport à la dangerosité, je pense que faut pas exagérer, comme on le voit dans beaucoup de médias. Il y a des pathologies plus dangereuses que le monde a connues, que l'Afrique a connues. Elle n'est pas aussi dangereuse que Ebola, en dépit des gaffes qu'elle est en train d'entreprendre dans les pays occidentaux. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sa dangerosité dépend d'un certain nombre de facteurs. Okay. D'abord, parlons un peu de la contagiosité. Okay. Elle apparaît par sa voie de contamination très dangereuse au contact des gens, alors que notre société est habituée à des vies de communauté, alors que le monde est en mouvement. Donc, étant donné que c'est par voie aérienne et les personnes sont en mouvement, sa dangerosité, sa contagiosité devient majeure. Et ça devient préoccupant. On ne doit quand même pas s'isoler et à cause de la peur de Covid et durablement, au risque d'handicaper l'économie et même d'affecter la psychologie de l'homme qui est un homme social habitué à vivre dans un environnement avec les autres, un homme de société. L'autre aspect, c'est surtout qui est moindre hein, de toutes les façons, c'est que ça cible tous les personnes âgées. Est-ce que vous voyez un peu? Ça cible surtout les personnes âgées. Et donc, l'âge au-delà de 60 ans, voire de 65 ans, devient un facteur de dangerosité ou bien l'existence d'une comorbidité. Et voilà un peu deux facteurs majeurs qui font la dangerosité de cette affection, qui n'est pas plus dangereuse, comme je le dis, que d'autres maladies. Ce qui en fait un danger aussi, c'est que ça n'a pas de barrière sociale. Quel que soit votre niveau social, que vous soyez pauvre ou riche, vous pouvez être touché. Donc voilà quelques facteurs qui font de cette affection quelque chose de dangereux aujourd'hui. Et si bien que nos personnes âgées ou bien ceux qui ont une comorbidité manifestent la forme la plus grave, voire la plus fatale. Parce que si je m'en tiens aux chiffres, le taux de létalité est entre encore 2 à 3%. Même dans nos pays d'Afrique, au plus 4%, si vous voyez. Et alors qu'avec une maladie comme Ebola, le taux de décès peut aller jusqu'à plus de 60%. Voilà un peu des réalités qui montrent que sa dangerosité est relative et c'est déterminé par les facteurs que je viens d'énoncer.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Puisque vous intervenez dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso, nous aimerons savoir comment s'organise cette lutte dans ce pays-là.
Effectivement, au Burkina Faso, il faut saluer l'engagement politique au niveau de ce pays, comme on le voit d'ailleurs dans la plupart des pays du monde. Et le ministère de la Santé, très tôt, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, a rapidement mis en place un plan de préparation et de riposte contre Covid, à l'image des plans de riposte et de préparation qu'ils avaient déjà conçus contre les fièvres hémorragiques, Lassa. Donc, de cette façon, ce plan a d'ailleurs même été révisé récemment en avril. Et le but de ce plan, c'est de répondre efficacement à cette pandémie à travers une communication efficace, la prévention et une prise en charge correcte des cas, et surtout une bonne coordination de cette pandémie. Et cette coordination est particulièrement placée sous l'autorité même du Premier ministre du pays, si bien que ça crée une certaine crédibilité, une confiance aussi pour les partenaires. Je voudrais surtout saluer l'engagement politique parce que la prise en charge là-bas est gratuite. Même le test de COVID pour les voyageurs, c'est gratuit jusqu'à présent. Et tout ça, c'est à saluer de la part de ce pays.
Et donc,
je sais que dans la plupart des autres sous-régions, des choses similaires se font, mais vraiment, c'est à saluer. Je vous remercie. Oui.
OK, puisqu'on voit que le traitement, vous avez dit, et puis le test sont gratuits, qui finance tout ça au Burkina?
Ah oui, tout ça, ce sont les partenaires techniques et financiers, et puis l'engagement également du pays. Parce que je me souviens, il y a eu des télétons pour que les populations, et pour mobiliser, et pour faire la mobilisation des ressources financières en faveur des personnes malades, et en faveur de la lutte, et on a senti un engagement populaire. Okay? Les sociétés privées, les personnes de bonne volonté n'ont pas hésité à contribuer dans le panier de la lutte. Et ça, c'est vraiment très important. Et leur engagement, l'engagement populaire dans la lutte aussi, a motivé les partenaires techniques et financiers à se montrer solidaires de ce gouvernement.
Nous avons un auditeur burkinabé, un autre auditeur burkinabé, Charles Bazema, qui dit que depuis la saison pluvieuse, nous assistons à une augmentation spectaculaire du COVID-19 au Burkina Faso. Et comme, en fait, c'est la même chose qui se passe aussi avec le palu. Pourquoi cela et pourquoi dit-on que la pandémie est différente du paludisme, puisque les deux, voilà, on assiste à une augmentation des cas de COVID et de palu?
Bon, je vois que j'ai compris la préoccupation de cet auditeur, mais dans tous les cas, comme j'ai commencé par le dire à l'entame, il ne faut pas confondre la COVID-19 au paludisme. Et même s'ils ont des symptomatologies similaires, déjà, il y a une grande différence par la voie de contamination. Nous avons vu que la voie de contamination, dans ce qui concerne COVID, c'est surtout la voie aérienne. Okay? La voie principale est aérienne, à travers des gouttelettes, des spluges émis dans l'environnement de la personne contaminée. Et ce qui n'est pas du tout le cas en matière de paludisme. En ce qui concerne le paludisme, nous savons qu'il y a un vecteur, okay, la nouvelle femelle, et c'est par piqûre de moustique. Okay? Donc, c'est tout à fait différent comme voie. Et aussi, la cible. Nous avons vu que spécifiquement, les personnes âgées sont de grands tributaires de la pathologie de la pandémie, alors que pour le paludisme, ce sont surtout nos enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc, voilà vraiment une grande différence. S'il est vrai qu'en matière de saison, on sent une certaine remontée, déjà nous savons que c'est en période de saison que les anopheles qui transmettent le paludisme se multiplient, et aussi et la période pluvieuse est également une période où sont favorisées les infections respiratoires aiguës. Et en toussant, si bien que même un porteur sain, qui, à un moment donné, attrape une toux banale liée à une infection respiratoire aiguë, peut, à force de tousser, quand même devenir un source de contamination. Donc voilà un peu l'analyse que je peux faire, tout en confirmant qu'il n'y a pas de confusion possible entre les deux. Et devant toute fièvre, d'ailleurs, évocateur du paludisme, et la présence d'une infection d'infection respiratoire, à savoir la toux ou le rhume, il faut immédiatement penser au COVID-19 et recommander fortement le test pour ne pas passer à côté d'une cette maladie. Voilà ce que je peux dire tout en rassurant l'auditeur que pour faire face à ce dilemme, et le gouvernement, comme dans beaucoup d'autres pays, ils ont proposé des définitions communautaires de cas de COVID qui permet de faire un diagnostic suspect, quelle que soit l'échelle, à quelle échelle que l'on soit du système de santé. Cela facilite le diagnostic pour ne pas passer à côté du paludisme, et qui est également très grave pour nos enfants et nos femmes enceintes, et également du COVID qui menace beaucoup nos personnes âgées et qui crée beaucoup de dégâts sur le plan socio-économique.
Alors, docteur, il y a un autre auditeur, Pierre Nkagoudia, qui depuis Miabi dit « Qu'est-ce qui explique un taux de mortalité élevé du corona chez les personnes âgées que chez les jeunes ?»
Ah oui, effectivement, c'est une préoccupation qui a trotté l'esprit de beaucoup de chercheurs depuis le démarrage de COVID-19 en Chine. Et on en est encore à des hypothèses. Mais ce n'est pas, quand nous disons hypothèses, c'est des hypothèses plausibles, vraisemblables. Donc, il ne s'agit pas de les négliger. C'est-à-dire qu'avec le temps, les chercheurs ou les recherches vont les confirmer de façon à ce qu'on ne puisse, qu'il n'y ait plus l'ombre d'aucun doute. Je vais citer par exemple l'âge. L'âge, souvent, est un facteur de réduction de faiblesse de l'immunité chez les personnes âgées. Donc, si bien que la capacité de réponse immunitaire face aux infections virales devient réduite chez les personnes âgées. Donc, cela fait que eux, ils sont plus sensibles, alors que ce n'est pas le cas chez les jeunes individus. L'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que nos personnes âgées, en dehors de cette faible faiblesse de leur niveau immunitaire, c'est surtout la possibilité que ces personnes âgées à un certain âge, en Afrique, les personnes âgées, nous les mettons à 60 ans et plus, ailleurs, on les met à 65 ans et plus. Et ce qui caractérise ces personnes âgées, c'est l'existence déjà de comorbidité. C'est rare qu'à cet âge, nos personnes âgées n'aient pas déjà dans leur vie enregistré des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension ou le diabète. Et tous ces facteurs deviennent des facteurs aggravants qui augmentent le risque chez nos personnes âgées. Donc voilà deux facteurs majeurs que je peux citer. Et puis, autre facteur quand même qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'avec l'âge, notre dispositif physiologique, c'est-à-dire la façon de réagir de l'organisme en dehors de l'immunité, n'est plus le même. Par exemple, face la capacité d'adaptation face à la déshydratation que génère le COVID-19 ou la détresse respiratoire que génère le COVID-19 ou bien la perte de conscience que génère le COVID-19 deviennent des éléments très graves pour ces personnes âgées qui n'ont pas non plus la même capacité physiologique d'adaptation au stress et aux facteurs extérieurs, si bien qu'eux, ils succombent plus rapidement. Ce qui n'est pas le cas chez les jeunes personnes qui ont encore une bonne capacité physiologique d'adaptation par rapport au stress et aux facteurs extérieurs. Donc voilà trois éléments majeurs que les études jusqu'à présent sont en train de mettre en exergue et que nous pensons sont vraisemblables en ce qui concerne la vulnérabilité majeure de nos personnes âgées.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Beaucoup de nos auditeurs sont aussi préoccupés par les moyens de prévention de la pandémie.
Effectivement, dans nos pays en Afrique subsaharienne, par rapport même à cette pandémie où le traitement est toujours problématique, même les recettes proposées et la science continue à douter d'elles, la meilleure approche jusqu'à présent, c'est la prévention. Et c'est sur cet angle-là que la plupart des politiques des pays en Afrique subsaharienne et de l'Afrique sont orientées. Et puis, cela se fait à coup de publicité et de conscientisation des populations. Et parmi ces mesures que beaucoup de radios rapporte déjà, beaucoup de télévisions en parlent déjà et beaucoup de réseaux sociaux les rapportent. Je ne pourrais rappeler que celles qui sont les plus connues, à savoir de se laver les mains fréquemment à l'eau et savon et au savon, ou bien d'utiliser des solutions hydroalcooliques pour se désinfecter les mains. Et il y a aussi le respect de la distanciation sociale, ok, au moins un mètre, comme c'est souvent recommandé en Afrique, et il est recommandé même 1,5 mètre ailleurs, voire 2 mètres. Mais à 1 mètre déjà, d'une personne contaminée, les chances pour que les virus qui sont les gouttelettes ou les virus dans l'air puissent vous toucher. Et puis l'autre, troisième élément qui est majeur aussi, c'est le port du masque. Je sais que beaucoup en parlent, mais nous n'allons jamais cesser de le recommander face à la quelle est la voie respiratoire, le port du masque est vraiment recommandé. Donc voilà trois recommandations majeures que nous rappelons. Il y en a bien sûr d'autres que je peux évoquer aussi. C'est d'éviter de prendre part au grand regroupement. Au grand regroupement, en Afrique, très tôt, il y a eu des fermetures, des églises, okay, des lieux de regroupement. Ça a été la même chose, effectivement, en Occident. Donc, éviter les grands regroupements. Et surtout, il faut rester chez soi quand on sent un peu de malaise et appeler et le numéro et alerte dont j'ai parlé pour avoir des conseils. OK. Et parce que les lieux de les hôpitaux et les centres de santé deviennent également des sources majeures de contamination. Et à ce niveau, et au-delà des recommandations communautaires que j'ai citées, je peux citer aussi quelques mesures majeures qu'il faut prendre au niveau des centres de santé, des formations sanitaires. Et ce sont des précautions universelles de prévention et de contrôle des infections, et ça, les dispositifs de lavage des mains, le port des équipements de protection individuelle, et puis le renforcement de l'hygiène au niveau des espaces d'accueil, le lavage des mains aussi, le port des masques, tout ça, c'est des éléments qui doivent être renforcés au niveau des centres de santé, pour que nos centres de santé, où les cibles de ces pathologies sont les professionnels de santé, ne deviennent pas également une source de contamination pour ceux qui viennent y chercher de l'aide. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et effectivement, ceci me permet de rappeler aussi que et parmi les grands cibles de Corona, il y a les professionnels de santé et eux-mêmes, par les précautions de contrôle et de prévention de l'infection qui doivent être renforcées, les précautions universelles qui doivent être renforcées par des précautions additionnelles, ils doivent pouvoir bien être sécurisés et ne pas se faire contaminer ou devenir une source de contamination pour les visiteurs. Voilà les recommandations que je peux proposer en ce qui concerne la prévention, aussi bien au niveau communautaire, individuel, qu'au niveau des...
Notre auditeur Alphonse Mbouaki de la RDC dit ceci, les gens actuellement se saluent par les coudes. Est-ce que ce contact peut aussi contaminer une personne saine si l'autre coude porte l'infection?
Bon, je ne pense pas que... Comme je le disais, il y a un peu trop de dramatisme, psychodramatisme autour de la pathologie qu'il faut savoir modérer, parce que même l'excès de stress, l'excès de peur peut affaiblir l'immunité des gens. Donc il ne faut pas qu'on exagère. Il n'y a pas de preuve que tel geste soit une source de contamination et je ne pense pas d'ailleurs que ça soit une source majeure de contamination. La voie principale, nous l'avons évoquée et n'allons pas la perdre de vue. Et si, en faisant ces gestes, les gens se souviennent de porter leur masque, et je pense que le port de masque et par deux personnes et réduit également sensiblement ces modes hypothétiques de contamination auxquels moi je ne pense pas que ce soit déjà établi. Je ne souhaiterais pas qu'on exagère trop les voies de contamination jusqu'à briser les gestes de convivialité qui, quand même, sont restés en dépit de ce que la désocialisation que veut provoquer COVID-19. Je ne suis pas sûr que cela soit établi et je recommande surtout que quand ces gestes sont faits, de se souvenir de porter ces masques et pour ne pas devoir attraper COVID-19 et de se désinfecter régulièrement les mains, même si on ne se salue plus, on ne se serre plus les mains, pour pouvoir éviter cette pandémie et surtout la distanciation sociale.
Vous venez de suivre notre discussion avec le docteur Camille Gounimenou sur la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. C'est ici que s'achève aussi notre programme « Votre santé, votre avenir ». Cette édition était exclusivement consacrée à la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Nous avions interviewé le docteur Camille Gounimenou, spécialiste de santé publique et médecin engagé dans l'appui international dans la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nanique Talani. Continuez d'écouter VOAfrique Et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.